Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence qui est au milieu de nous ce soir, Seigneur. Tu es vivant et tu vis en nous, Seigneur. Hallelujah. Et tu nous aimes, Seigneur. Tu ne pouvais pas vivre sans nous, Seigneur. Alors tu as donné ta vie pour nous et tu nous as ouvert le ciel. Non seulement pour qu'un jour nous puissions te rejoindre au ciel, mais parce que tu voulais aussi que le ciel vienne et descende dans notre cœur, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que ce que nous chantons, ce que nous prions ce soir, c'est du vécu. C'est réel et c'est vrai pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Que ferions-nous sans ta présence, Seigneur? Tout cela ne serait qu'une théorie, mais ta présence rend toute ta parole vraie et réelle en nous, Seigneur. Alors nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire ce soir. Amen. Amen. Hallelujah. Ah, vous êtes déjà assis. Hein? Hallelujah. Prenez un instant juste pour vous lever, saluer quelques personnes autour de vous. J'avais les yeux fermés, je priais, je m'excuse. Saluez-vous. Mamadou, si tu peux juste me donner un petit peu de retour, s'il te plaît. Ce serait gentil. Alléluia. Tournons ensemble sans plus tarder dans la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas au courant, nous entamons une toute nouvelle série ce soir. Donc, on va tourner dans Romains, si vous le voulez bien. L'Épître aux Romains, le premier chapitre. Et c'est une étude biblique que nous allons faire en équipe pastorale. Donc, on aura chacun 2 heures ce soir. Je prends 2 heures. Et puis, 2 heures plus tard, Sylvain viendra. Non, non. Mais on s'est donné comme défi de faire cette étude ensemble avec vous. Parce que les enfants de Dieu aiment la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est tellement important de connaître la parole de Dieu. Il y a très longtemps, le pasteur Michael King a entrepris un grand voyage. Il alla jusqu'en Israël. Et puis d'Israël, il alla en Allemagne. Et puis après, il rentra chez lui, complètement bouleversé de ce qu'il avait étudié sur Martin Luther, sur la réforme, sur tout ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Il fut tellement bouleversé qu'il changea son nom pour Martin Luther King. Et si Martin Luther King a changé son nom, parce que son premier nom était Michael, s'il a changé son nom pour Martin Luther King, c'est parce qu'il a été profondément impacté de voir ce que Dieu avait fait dans Martin Luther. Et on va en parler dans un instant ce soir. Parce qu'au 16e siècle, Martin Luther apparaît dans un monde qui a déjà 700 ans de guerre religieuse, où le Saint-Empire romain, si vous connaissez un peu l'histoire, a la mainmise sur toute l'Europe. Il n'y a, à l'époque de Martin Luther, aucune preuve historique d'un foyer de réveil spirituel quelconque, authentique, quelque part. Rien. Tous ses prédécesseurs qui ont remis en cause les croyances catholiques ont été brûlés sur les places publiques. Martin Luther était membre de l'ordre mendiant des Augustins. Martin essaie, au couvent des Augustins d'Erfurt, de rechercher dans l'ascèse une vie d'ascétisme, de privation à travers des mortifications, de la mendicité, le jeûne. L'ordre des Augustins allait sur la rue mendier leur pain. Il fait beaucoup de jeûnes, il fait des veilles, il se prive de sommeil, tout ça pour essayer de gagner la paix avec Dieu, gagner son ciel. Il veut la paix avec Dieu tout en restant persuadé qu'il n'y parviendra jamais. Il pouvait se confesser pendant parfois plus de 6 heures de temps sans arrêt. Martin Luther pouvait se confesser, cherchant la paix avec Dieu. Il pouvait s'enfermer dans un cachot pour implorer Dieu pendant des heures. Il était devenu si maigre qu'il pensait mourir avant la fin de son doctorat. Arrivé à Wittenberg comme théologien à l'université et prédicateur à l'église, il poursuit sa quête personnelle. Il cherche la paix avec Dieu sans arrêt. Dans son rejet des Écritures humanistes, parce que vous devez comprendre qu'à l'époque, dans presque tous les ordres catholiques, monastiques et universitaires, on n'étudiait plus la Bible. Ce que je vous dis, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est vraiment prouvé. Il y avait cette forme d'humanisme où on revenait aux écrits d'Aristote, aux écrits des grands philosophes grecs, tout ça. Et la Bible avait été complètement mise de côté. Mais Martin Luther, lui, voulait revenir à la source. Il lisait la Bible, il avait mis de côté tout cet aspect, cette grande mouvance du début de la Renaissance. Hein. Il a vécu tout début de la Renaissance et de cette recherche d'humanisme. Et dans sa recherche obsessive, il est interpellé par un petit verset, Romains 1, 17, « Le juste vivra par la foi ». Et pendant un an de sa vie, Martin Luther est obsédé par ce verset, il retourne. Et vous devez comprendre, si tout le système autour de lui, tout le monde dans lequel il vit est contre Romains 1, 16 et 17. Tout ce qu'il voit autour de lui, tout ce qu'il entend, toutes les discussions, et même c'est extrêmement risqué parce que les hommes qui ont essayé de sortir de tout ce système impérialiste catholique, un de ses prédécesseurs juste avant lui a été brûlé là en Allemagne, mais il ne peut pas enlever ses yeux de sur la vérité. Et pendant une année, il retourne à Romains 1, 16 et 17, qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Et pendant un an, ça met un an pour que petit à petit, il va dans un texte, il revient, il va dans un autre livre de la Bible, il revient, il va dans l'Ancien, dans le Nouveau. Il revoit toute sa vie petit à petit. Et alors qu'il revoit tout ça, il revient toujours à Romains 1, 16 et 17, qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Et il arrive à cette... Et à la fin du message, je vais vous lire quelque chose qu'il a écrit qui est merveilleux. Il arrive à cette conviction où il dira lui-même, « Ce jour-là, je suis né de nouveau. » Et la nouvelle naissance n'était pas une expression de son siècle. C'était même très, très avant-gardiste ce qu'il a dit. Alors, ce qui est extrêmement important de voir ensemble, c'est qu'au moment le plus sombre peut-être de l'histoire de l'Église, un germe d'espoir apparaît dans le cœur d'un homme à travers un verset tiré de l'Épître aux Romains. Et si nous voulons étudier l'Épître aux Romains, c'est parce que nous savons et nous découvrons ensemble que historiquement, c'est un épître. C'est mesuré quand on vous dit que c'est l'épître qui bouleversa le monde. C'est l'épître qui a bouleversé l'Europe et le monde entier. De ce texte est sortie toute la réforme, tous les écrits de Martin Luther, toutes les convictions. Il y a eu un courant de pensée que je ne peux pas vous expliquer ce soir. J'ai lu sa biographie et c'est extraordinaire. Et il va lui-même perdre complètement le contrôle de ce qu'il a écrit. Ses écrits vont le dépasser. Ses écrits vont aller jusqu'en Angleterre, vont aller très, très loin. Ils vont être imprimés, réimprimés. Et même, certains vont même décorer ses écrits. Et de là va partir toute la réforme, le protestantisme et ce qu'on connaît aujourd'hui, même les églises, les missionnaires qui vont jusqu'au bout du monde. Dans ce moment le plus sombre, Dieu a fait regermer, Dieu a toujours le dernier mot, amen. Et Dieu fait regermer l'espoir à travers cet épître aux Romains qu'on veut vraiment étudier ensemble, amen. Est-ce que je vous ai donné envie d'étudier l'épître? Hein? Ça donne envie, hein? Donc on va regarder ensemble quelque chose ce soir. On va regarder premièrement le contexte de l'épître. Ok, c'est vraiment une étude biblique qu'on fait ensemble. On aime la parole de Dieu, on veut l'étudier. Donc, cet épître est écrit par Paul. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Les théologiens appellent Paul le Moïse du Nouveau Testament. Comme Moïse a reçu la loi dans l'Ancien Testament, beaucoup voient en Paul celui qui reçoit le fonctionnement de la nouvelle Église, celui aussi qui expliquera le salut comme personne auparavant. Celui qui nous donne une révélation du salut, une révélation de la grâce de Dieu. Paul expliquera beaucoup, beaucoup de choses. Et Paul est vu comme vraiment ce Moïse du Nouveau Testament. Alors qu'il écrit cette lettre, vous devez comprendre, il n'est plus très jeune, il a 58 ans. Il n'a encore jamais visité Rome. Il écrit, c'est une lettre pour les chrétiens qui habitent à Rome. Paul est connu par sa notoriété, il est connu à Rome, mais il ne les a pas encore rencontrés. Donc les églises de Rome se sont développées sans Paul. Les églises ont été fondées, il y a plusieurs églises dans Rome, et la notoriété de Paul le précède. Il souhaite faire de Rome une base, et à deux reprises, il dira dans l'Épître aux Romains, il veut aller à Rome pour recueillir des fonds, il veut lever des fonds, il veut lever des ressources d'aide financière et humaine pour aller vers l'Espagne, pour amener l'Évangile encore plus loin. Alors, il va confier cette lettre à une jeune femme qui s'appelle Phoebe, je ne parle pas de l'épouse de Timothée, C'est la première Phoebe qu'on connaît. Donc, t'inquiète pas, c'est pas ta femme. Et puis, Phoebe va amener la lettre à Rome. Et maintenant, ce qui est très, très fort, on va maintenant regarder le texte ensemble, c'est que c'est la plus importante des lettres par son contenu et par sa taille. On dit que l'Épître aux Romains, c'est l'épître le plus riche de tous les épîtres que Paul aurait écrit. On pense que le premier épître, c'est un petit peu discuté, mais moi je crois que le premier épître que Paul aurait écrit, ce serait l'épître aux Galates. Parce que même on voit une maturité à travers les années, il est plus vif, il est plus jeune dans l'épître aux Galates. Et là, il est un peu plus âgé maintenant, il a 58 ans. Pendant des années, il sert le Seigneur, mais aussi pendant des années à côté, il étudie. Paul est un homme, est un friand de l'étude de la parole de Dieu. Et il en est venu à ses convictions. Et ce n'est pas moi ce soir, ça va être vraiment l'équipe, mais je ne sais pas qui va tomber sur les chapitres 5, 6, 7. Mais ne manquez pas la soirée, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Parce qu'il va parler de la vie de l'esprit, la chair, l'esprit, la victoire à travers la croix. Il va beaucoup parler aussi de la vie avec le Saint-Esprit. Et Paul n'est plus très jeune. Il a 58 ans, il écrit cette lettre qui est très riche de contenu et qui est la lettre la plus longue qu'il a écrite. Cette lettre va constituer le fondement de la doctrine chrétienne sur l'union avec Christ. Jean Calvin a été le spécialiste de son époque sur l'union avec Christ. Et l'union avec Christ, on dit que c'était la thématique la plus importante pour l'apôtre Paul, plus que le salut. Je l'ai dit dimanche, si vous n'étiez pas là. C'est fort. Paul va mettre plus l'emphase sur notre union avec Christ que le salut. Pourquoi? Parce qu'il inclut le salut dans l'union avec Christ. Le salut est pour lui une partie de notre union avec Christ. Et dans l'Épître aux Romains, Paul va tellement développer cette union. Nous avons été unis dans sa mort, nous avons été unis à la croix, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous serons glorifiés avec lui, nous sommes co-héritiers avec lui. Donc c'est un épître qui est extrêmement riche. Romains, on l'a vu ensemble et on le verra un petit peu tout à l'heure, c'est aussi l'épicentre de toute la réforme. Plusieurs thèmes sont abordés, mais il y a deux grands axes majeurs qui sont traités. L'Épître aux Romains parle sur la fin, vers la conclusion, il va partir, il a recueilli des vivres pour aider les chrétiens en Judée. Donc on va parler de générosité matérielle, on va parler de générosité monétaire. Paul va parler de la vie de l'esprit, il va parler du fonctionnement de l'Église, il va parler de persécution, il va parler de beaucoup de thématiques, mais il y a deux grands axes qui sont très importants. C'est ces axes que j'aimerais vous démontrer un petit peu ce soir parce qu'ils sont dans le premier chapitre, ils reviennent tout au long de l'Épître. Premièrement, il va parler des doctrines fondamentales. Pour Paul, si vous avez déjà un petit peu étudié cet homme et le Nouveau Testament, Paul est un virulent gardien de la vérité. On dit de lui que c'était un homme doux, très doux, mais lorsqu'on arrivait à des fausses doctrines ou amener les chrétiens vers des faussetés, on dit que Paul pouvait devenir un lion. Il voulait protéger, c'était extrêmement important pour lui de contrer les fausses doctrines. Vous devez comprendre que dès les débuts du ministère de Paul, dès les premières églises que Paul implante, derrière lui, Paul implante une église, souvent le dos lacéré, parfois avec son sang. Il va implanter des églises et il va y mettre tout ce qu'il a, persécution incluse, prière, jeûne. Et après son départ, d'autres vont venir profiter de ce qu'il a implanté et commencer à insinuer des faussetés dans les églises. En disant aux gens, c'est vrai qu'on est sauvé par Jésus-Christ, mais il faut aussi faire la circoncision. Il faut aussi faire ceci, il faut aussi faire cela. Et Paul était un vif protecteur et toute sa vie, Paul luttera contre les fausses doctrines. On va le voir ensemble dans un instant. Nous devons nous tenir pour la vérité. Les fausses doctrines sont encore très présentes autour de nous, sur Internet, partout. Et parfois, les gens mangent toutes sortes de choses spirituellement. Ils ne se rendent pas compte de quoi ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Et puis après, les gens ont des problèmes. Donc, les doctrines fondamentales sont très, très importantes pour Paul. Deuxième sujet que Paul va traiter, c'est Israël et l'Église. Les églises de Rome se sont développées de façon ethnique. Paul n'est pas encore arrivé à Rome, qu'il y a déjà des problèmes à Rome entre les églises. Il y a des églises ethniques judéo-chrétiennes, ça veut dire que ce sont des chrétiens juifs, et des églises pagano-chrétiennes, ce sont des églises gréco-romaines, mais pas juives. Les juifs n'acceptaient pas les grecs, et les grecs aussi répugnaient les juifs déjà exclus de Rome. Ils doivent apprendre à vivre ensemble. Paul écrit l'Épître aux Romains. Et là, il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas trop pourquoi il écrit ça, mais eux, les gens à l'époque, comprenaient très bien de quoi Paul y parlait. Les églises étaient développées en deux groupes d'églises. Il y avait les églises où il y avait les Juifs, parce que chez les Juifs, on ne se mélangeait pas avec les autres peuples. Donc, les chrétiens avaient gardé ces traditions juives de ne pas se mélanger avec les autres. Donc, on avait des églises judéo-chrétiennes où on ne voulait pas les Romains à l'église. Vous savez que ça existe encore aujourd'hui. Vous savez que ça existe dans cette ville. Il y a des gens, il y a des églises, et ça, ce n'est pas de Dieu. Il faut être d'une certaine ethnie pour aller dans cette église. Ce n'est pas de Dieu. L'église, elle n'est pas comme ça. Paul, avant d'arriver à Rome, était déjà percuté par ce problème. Et pour lui, juif ou pas juif, en Jésus-Christ, on est tous égaux. Tous égaux. On est les enfants de Dieu. On devrait être capable d'adorer le Seigneur ensemble. Amen. Et de prier les uns pour les autres et de s'aimer. On ne devrait pas regarder la couleur de peau. On ne devrait pas regarder à l'ethnie. On ne devrait pas regarder à ces choses-là. Je peux comprendre que des gens ont besoin de se réunir pour la langue, hein, parce qu'ils parlent la même langue. Ils ont besoin de prier ensemble pour des raisons pratiques, ça on peut comprendre. Mais pour des raisons d'ethnie, Paul dit non, ce n'est pas de Dieu. C'est impressionnant parce que ça existe encore aujourd'hui. Et ça existe aujourd'hui, ici. Il y a 2000 ans, ça existait déjà à Rome. Et de l'autre côté, on a les Romains chrétiens. Et vous devez comprendre qu'avant que Paul écrive l'Épître, l'empereur romain avait évacué, on pourrait dire expulsé, les Juifs de Rome parce qu'il y avait une histoire de magouille et les Juifs étaient très mal vus. Et pour faire plaisir aux Romains, l'empereur avait expulsé tous les Juifs de Rome. Les Juifs étaient mal vus. Dans la société romaine, chez les Romains, on ne les voyait pas bien à ce moment-là. Ils avaient une très mauvaise réputation. Donc, de l'autre côté, on a aussi des Romains chrétiens qui ne veulent pas trop s'associer avec des Juifs. Donc, on a deux styles d'église. Et Paul va leur écrire, et à travers cet épître, et aussi dès le premier chapitre, Paul, vous allez voir, il veut se présenter, il veut démontrer à quel point l'Église a besoin de vivre ensemble. Amen. Ce n'est pas à la société de nous dire comment on doit faire l'Église, c'est à l'Église de briller dans la société. Amen. Que peu importe d'où on vient, peu importe votre rang social, peu importe votre arrière-plan, peu importe votre culture, votre ethnie, votre langue, riches, pauvres, jeunes et vieux, tout le monde en Jésus-Christ, on devrait se réunir et aimer le Seigneur. Amen. Non? Merci, vous m'encouragez, j'ai eu peur là. OK, on continue. On arrive à des leçons. Maintenant, si vous voulez bien, on va lire un tout petit peu. On ne va pas lire tout le chapitre parce que c'est quand même un gros chapitre. Ça serait long à lire, il y a une trentaine de versets. Mais on va lire quelques portions, OK? Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis, il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous avez vu ce qu'il dit? Déjà, des hommes de toutes les nations. Paul touche à cela. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus. Tout d'abord, je remercie le Seigneur. Et là, Paul va se présenter aux chrétiens. Donc là, ce soir, on va s'arrêter au chapitre premier, on n'ira pas au deuxième chapitre. Mais il y a deux parties au premier chapitre. La première partie, c'est que Paul se présente aux églises. Et la deuxième partie, à travers dans le même chapitre, Paul, il va poursuivre dans le chapitre 2, mais Paul se présente à la société romaine. Et on va y venir ensemble. Donc, premièrement, Paul se présente aux églises. La première leçon que j'aimerais vous démontrer ce soir, c'est que l'Évangile doit rester pur. Paul affiche, du verset 1 au verset 17, il affiche son Évangile. Il dira même dans d'autres lettres, ça c'est mon Évangile. Pourquoi est-ce que Paul il dit « selon mon Évangile » Parce que déjà à son époque, il y a beaucoup d'Évangiles qui circulent. Et pour les chrétiens, à un moment donné, pour certains qui ne sont pas trop dans la parole, ils veulent comprendre, c'est plus facile pour nous. C'est plus facile pour nous aujourd'hui savoir qu'est-ce que la vérité, alors qu'il y a encore plus de fausseté autour de nous. C'est plus facile pour nous connaître la vérité parce que nous avons la parole. Il y a 2000 ans, la parole est en train d'être vécue, elle est en train d'être écrite. Les gens n'avaient pas ce livre. Les gens avaient les rouleaux de l'Ancien Testament. Ils avaient des parchemins de l'Ancien Testament. Ils devaient aller à la synagogue. Et on avait quelques lettres circulaires de ce que Jésus avait dit. Et c'est plus tard que, petit à petit, la Bible va commencer à se mettre en place, si je peux le dire ainsi. Mais au temps de Paul, c'est les apôtres qui vont de lieu en lieu, qui forment d'autres, qui vont former d'autres. Et c'est encore oral. Les croyances, ce qu'on croit, c'est oral. Donc, c'est facile peut-être pour certains chrétiens de se laisser un petit peu détourner à droite et à gauche, mais qu'est-ce qui est vrai? Si vous connaissez un petit peu l'Épître aux Galates, parce que l'Épître aux Galates est très relié à l'Épître aux Romains, eh bien, dans l'Épître aux Galates, Paul dit, il parle de ces super apôtres, soi-disant, non, ça, c'est aux Corinthiens, mais il dira, ces gens qui sont passés après lui et qui viennent et qui disent, oui, Paul a dit cela, et même ils vont chercher à discréditer Paul. Paul a dit cela, mais nous, on sait mieux que lui. Et si vous regardez Galates, Paul dira, hey, je la connais, la loi. Eux, ils débarquent avec la loi, ils veulent vous ramener la loi dans l'Église, ils veulent vous ramener toutes sortes de fausses pratiques. Il dit, j'étais là, j'ai quitté tout ça. Et là, il va écrire cette lettre aux Galates. Et il y a déjà toute cette fausseté qui circule. Et c'est extrêmement important pour Paul. Et c'est, je vous dis ce soir, ça brûle sur mon cœur. Parce que quand on parle avec les chrétiens, les pasteurs, on voit que souvent les gens sont partis dans un truc qui n'est pas vrai. Croient des choses. J'ai parlé il y a quelques semaines de cela. Les gens mélangent aussi leur culture avec la parole de Dieu. Mélangent ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes, des pratiques. Même les gens ramènent parfois certaines choses de leurs anciennes croyances, de leurs anciennes pratiques. Ils vont mélanger ça avec la parole de Dieu. Et historiquement, quand on étudie la missionologie, hein, c'est l'histoire des missionnaires. En missionologie, on vous démontrera que là où les missionnaires ont été dans des pays très loin, ils ont amené l'Évangile, la parole de Dieu, mais petit à petit, les anciennes cultures tribales ont commencé à se mélanger et des pratiques sont arrivées dans l'Église qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Des façons de prier, des façons de se comporter, se priver de certaines choses, vivre d'une certaine façon, traiter les autres autour de nous d'une certaine façon, qui n'avaient rien à voir avec la Bible. Et c'est devenu un mélange de culture et de la parole de Dieu. Et constamment, le Seigneur veut nous ramener. Constamment, si je peux vous permettre l'expression, Dieu doit ramener le train sur les rails, réaligner les choses. Maintenant, on a une grande protection pour nous ce soir. Et je vous le dis, c'est cette protection pour moi qui est extrêmement importante. Si vous aimez la parole de Dieu, le Seigneur va vous garder. Le frère Billy Graham est parti avec le Seigneur. Il y a quelques années, sa fille était assise à côté d'un homme lors d'une conférence où Billy Graham prêchait. Et sa fille, en rue de Belgrame, était assise à côté d'un homme et elle fait connaissance avec lui. Après la réunion, elle dit, vous faites quoi dans la vie? Il dit, je travaille pour le service des fraudes américaines pour les faux billets. Elle dit, ah, c'est intéressant. Elle dit, j'ai une question pour vous. Comment vous faites pour découvrir un faux billet? Ah, il dit, je vais vous expliquer. Il dit, c'est très simple. On prend un agent, et quand on veut le former à trouver c'est quoi un faux dollar, hein, en fait, pendant des mois, on lui donne que des vrais billets. On le met dans une pièce, on lui demande de travailler sur des vrais billets, calculés, classés, un peu comme dans une banque, tu vois. On le fait travailler avec des vrais billets. Pendant des mois et des mois et des mois, il touche, il voit, il sent, il regarde que des vrais billets. Et à un moment donné, son formateur lui glisse un faux billet. Il attend de voir ce qu'il va faire. Et tout à coup, le gars, il compte ses billets et tout, il regarde. Et bien, comme juste une vive impression, il va voir son chef. Il dit, celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Et en fait, il expliquait à la fille de Billy Graham que la meilleure façon de former quelqu'un à discerner le faux, c'est en connaissant le vrai. Et ce n'est pas en devenant des spécialistes des faux évangiles, parce que vous pouvez devenir un spécialiste des faux évangiles, mais il y a un nouvel évangile qui peut sortir à tous les mois, un faux évangile qui peut apparaître à tous les mois. La clé pour être prêt face à tous les faux évangiles qui circulent autour de nous, c'est d'être dans le vrai. Et plus on est dans la parole, personnellement, plus on peut écouter. Vous connaissez les chrétiens de Béré, hein? Vous avez déjà entendu parler des chrétiens de Béré dans les Actes? Paul leur enseignait des choses, et la Bible dit, et ils allaient voir. Paul disait, donc certainement que c'était des Juifs, ça ne pouvait pas être autre chose que des Juifs, parce que Paul commençait par les synagogues. Donc, il leur disait, Jésus-Christ, c'est le Messie. Jésus-Christ a été prophétisé. Et voyez-vous, j'imagine, peut-être Paul a dit, Ésaïe 53, le serviteur, nanana. Ah oui, ils allaient lire Ésaïe 53. Ah ben dis donc, ah ben oui, ça ressemble à Jésus. Et tu vois, ils allaient vérifier. Et un chrétien, ce n'est pas un consommateur de prédication. Non? Hein? Dites hein? On est dans une société de consommation. Mais un chrétien, ce n'est pas un consommateur. Un chrétien, c'est un disciple. C'est quelqu'un qui aime la parole. C'est quelqu'un qui lit la parole à la maison. C'est quelqu'un qui regarde la parole. Et si tu lis la parole, eh bien, à un moment donné, tu vas entendre quelque chose. Quelqu'un va dire, « Ah, va voir tel message sur Internet. Va écouter telle prédication. C'est super. » Tu vas l'écouter, tu télécharges. Et à la 18e minute, tu dis, « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas là. » Et parfois, tu n'es pas obligé de tout comprendre, mais tu n'es pas obligé de devenir un spécialiste de ce qui est faux, mais parce que tu connais ce qui est vrai, tu dis, là, je ne le sens pas là. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on retourne à la parole et qu'on cherche, qu'on lit, et bien à un moment donné, on voit qu'est-ce qui est faux. Amen. Je pense que notre plus cher désir en tant que berger, et je parle au pluriel de cette église, c'est d'amener les enfants de Dieu à aimer la parole. Justine, mon épouse, était le week-end dernier dans une conférence de femmes. Et à la fin du week-end, ils ont donné le micro à des femmes pour témoigner. Et ma femme, Justine, m'a dit, ça, c'était mon chèque de paye. Il y a une femme, elle est venue au micro, puis elle a dit, moi, je repars de ce week-end avec une soif et une faim de connaître encore plus la parole de Dieu. Elle a dit, Justine m'a donné envie de connaître la parole de Dieu. Et voyez-vous, c'est notre désir que chacun d'entre vous rentriez à la maison et vous dites, le pasteur ne m'a pas tapé dessus avec une baguette pour que je lise ma Bible. Il m'a donné envie de lire la Bible, de la connaître. Amen. Et ça, c'était vraiment l'apôtre Paul. Paul, avant d'arriver à Rome, doit leur montrer ce qu'il croit. Et c'est un long épître, c'est un épître riche. Les prochains pasteurs qui vont venir derrière moi vont vous amener sur des chapitres extraordinaire, je l'ai jalouse. Je n'ai pas regardé qui prêchera quel chapitre, mais je suis jaloux, j'ai envie de piquer leur place parce qu'il y a des super beaux chapitres qui sont d'une richesse extraordinaire. Mais je vous encourage à lire l'épître aux Romains à la maison. Amen. C'est un épître merveilleux, c'est un épître d'une richesse extraordinaire. Et parce que Paul voulait, il va arriver à Rome, il veut établir une base pour aller en Espagne. Et si on est d'accord sur la même doctrine, si on voit l'Évangile de la même façon, eh bien, on pourra travailler ensemble et on pourra aller encore plus loin. Maintenant, on connaît l'histoire. Hein. Il ne pourra pas accomplir ce rêve qui était sur son cœur. Il va arriver 3 ans plus tard à Rome, mais comme un prisonnier. Et donc, c'est tellement important. Vous savez, un homme, un jour, a dit ceci sur les fausses doctrines. Il a dit, si je vous offre à boire. Michael, viens ici. Non, viens. Oh, arrête. J'ai vu que tu avais soif. Je t'offre cette eau de source. Voilà, tu peux boire. Non, mais je la garde, tu fais semblant. Michael, elle est 99% pure. C'est pas mal, hein? Ça te rassure? 99% pure. Ça t'inquiète pas savoir le 1% d'autre? C'est du poison. C'est du poison mortel. Et j'ai aimé ça parce qu'un théologien qui a dit ceci, parfois les chrétiens croient que... Tu t'en vas déjà? Bon, ça va. Parfois les chrétiens disent, « Ah, oh, mais c'est un petit truc. J'aime bien ce ministère. J'aime bien écouter les prédications de ceci ou de cela. J'aime bien ce qu'il enseigne. Je sais que ce n'est pas tout vrai, mais Paul a dit, retenez ce qui est bon. » Attention, hein? J'ai bien aimé ce que ce théologien avait dit parce que c'est le... 99% pur, c'est bien, mais ça peut être le 1% qui va te tuer. Il faut faire attention. L'Évangile doit rester pur. Et Paul était ce protecteur et on doit rester ce protecteur. Maintenant, je ne suis pas en train de vous donner des munitions pour aller attaquer des gens. Il faut faire attention. Il y a quelque chose qui est très important. Si vous avez étudié un petit peu le Nouveau Testament, vous avez sûrement remarqué que Paul attaquait les fausses doctrines, mais il n'attaquait personne. On verra, je suis convaincu qu'il connaissait les noms des hommes qui passaient derrière lui. Mais il aurait pu dire dans ses épîtres, « Faites attention à Gilbert, faites attention à Robert, faites attention à, je ne sais pas moi, les noms qu'il y avait à l'époque, je dis les noms français. » Mais Il aurait pu donner des noms, mais j'aime le fait qu'il ne nommera pas de nom. Oui, vous dites, il a nommé Alexandre et tout. Alexandre, ce n'est pas pareil. C'est vraiment un homme qu'il a attaqué devant César et tout. C'est une autre histoire. Mais il ne nommera pas le nom de ceux qui véhiculent de fausses doctrines. Ça veut dire quoi pour nous en 2018 aujourd'hui? Jamais qu'il faut attaquer des ministères ou des hommes. Il faut attaquer la doctrine. Parce que j'ai même entendu parler de pasteurs qui se sont repentis de fausses doctrines qu'ils avaient enseignées. Pasteur qui enseignait la prospérité pendant des années. Et puis un jour, il est tombé devant Dieu et il dit, Seigneur, je te demande pardon d'avoir tenté de juste faire plaisir aux gens pour ramener du monde à l'église et tenter de faire de l'argent. Je te demande pardon, Seigneur. Et voyez-vous, les hommes peuvent changer. Les hommes ne doivent pas être la cible. Faites attention quand vous parlez même entre chrétiens. De ne pas parler contre un homme ou contre un ministère ou contre un serviteur de Dieu. Laissez Dieu s'occuper d'eux. Mais vous pouvez pointer la doctrine. Ça, le serviteur, je l'aime, il n'y a pas de souci. Que Dieu le bénisse et que Dieu s'occupe de lui s'il est dans la fausseté. Moi, je te dis, puis ça, on peut s'encourager entre frères et sœurs, fais attention. Ça, c'est quelque chose qui est du poison. Mais la seule façon maintenant, c'est de connaître la Bible. Il y a deux grandes, et je vais terminer bientôt parce que je veux vraiment respecter le temps. Il y a tellement de fausses doctrines. J'ai pensé en faire une certaine nomenclature aujourd'hui, mais il peut en sortir une nouvelle la semaine prochaine. Il y a deux grands courants de fausses doctrines. On peut les mettre dans deux cases, si vous me permettez l'expression. Il y a un évangile qui est légaliste. Le légalisme a toutes sortes de définitions, mais j'aimerais vous en donner une petite simple ce soir, qui n'est pas parfaite, mais voici comment je vois les choses. Le légalisme, c'est quand on veut imposer aux gens un cadre pour les forcer à changer. Comprenez-vous ce que je veux dire? On impose des gens, fais ceci, fais pas ceci, fais comme ci, fais comme ça, prie de telle façon, prie tant d'heures, fais ci, fais des jeûnes, fais des prières, fais des nuits de prière. Oui, il faut prier, oui, il faut faire des nuits de prière, j'ai rien contre toutes ces choses-là. Mais quand ça devient une pression pour cadrer les gens et que la prière n'est plus une communion avec notre Sauveur, mais la prière devient une religiosité de performance pour mériter de Dieu, on est dans le légalisme. Quand le jeûne, Martin Luther était comme ça. Quand on s'impose toutes sortes de choses pour essayer de mériter que Dieu nous réponde, on est dans le légalisme. Quand on prend les exigences dans la Bible de sainteté, de sanctification, et qu'on veut les faire, qu'on les impose aux autres autour de nous, c'est du légalisme. On peut être dans un légalisme extrêmement moderne aujourd'hui. Vous pouvez avoir des églises hyper modernes, mais légalistes. Parce qu'elles mettent une pression sur les gens de se changer et de changer les autres autour d'eux. Vous verrez que dans l'Épître aux Romains, Paul va vraiment traiter avec d'une façon divine que la vraie sanctification, c'est par le Saint-Esprit. Faites par l'Esprit mourir les œuvres de la chair. Et le légalisme, c'est quand on a perdu cette vie de l'Esprit. Et même parfois, ils vont utiliser cet esprit dans leur truc. Ça, c'est une chose. L'autre faux évangile qui regroupe beaucoup de groupes, c'est ce qu'on appelle l'évangile de laxisme. Souvenez-vous de ceci, le légalisme et le laxisme. Le laxisme, c'est un évangile permissif. C'est un évangile où on n'ose plus nommer les choses par leur nom. On dit en anglais « call it by name ». Le péché, c'est le péché. Un homme qui couche avec une femme hors des liens sacrés du mariage, c'est de l'adultère, c'est de la débauche, c'est de la fornication, c'est péché. Il y a des églises aujourd'hui où zip, on ne dit plus rien. Donc parfois, la fausse doctrine, c'est de ne pas dire toute la vérité. Une église où on ne fait que dire aux gens, « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Pasteur, j'ai des problèmes de porno. C'est pas grave, t'es dans la grâce, Jésus t'aime. » Non, non, mais ça existe. C'est un évangile de laxisme. Je travaille au noir. Tu dis pas grave, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu régleras ça plus tard. C'est un évangile de laxisme. Le légalisme tape sur les gens, essaie de cadrer les gens, de les forcer à changer. Le laxisme ferme ses oreilles pour que tout le monde vienne, que tout le monde soit content. Tu vois? Les deux sont poison. Pourquoi le deuxième est aussi dangereux? Peut-être même, il n'y en a pas un pire que l'autre. Mais le laxisme, c'est terrible. Je vais vous dire pourquoi le laxisme, c'est terrible. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient qu'ils vont aller au ciel et ils n'iront pas. Il y a des gens qui, la Bible dit, celui qui pêche n'est pas né de Dieu. Le contexte n'est pas celui qui fait une chute morale et qui se relève et qui demande pardon à Dieu. Le contexte, c'est quelqu'un qui pratique le péché et qui continue à pratiquer son péché et il croit qu'il n'y a pas de problème. Jean dit, celui qui vit comme ça n'est pas né de Dieu. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans ta vie que Dieu dit que c'est mal et toi, tu dis, ben non, ce n'est pas grave, je te garantis bibliquement, viens me voir parce que c'est ton salut qui est en jeu. C'est ton éternité. Si tu justifies une pratique dans ta vie que Dieu condamne, eh bien, tu n'es pas né de Dieu. Et dans ces églises, le grand mensonge, c'est que parfois on baptise très rapidement des gens et je rends gloire à Dieu en tant que nouveau pasteur parce que quand j'ai lu tout le cursus des futurs baptisés, j'ai vu le travail extraordinaire que l'équipe pastorale fait avec Bernard et Marie-France et les questions qu'on pose aux gens avant de les baptiser, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que ça se véhicule aujourd'hui. Parfois, on dit dans certains milieux, « Ah, mais il y a 2000 ans, on les baptisait comme ça. Hein? » Attention, il y a 2000 ans, il y avait un Jésus. Donc, tu sortais de religion paganiste et ça coûtait aux gens de devenir chrétiens. Aujourd'hui, il y a des gens qui... Aujourd'hui, il existe 58 Jésus avec 58 évangiles différents. Et parfois, les gens pensent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Il faut voir avec eux comment ils comprennent l'Évangile? Est-ce qu'ils sont pris dans des fausses doctrines, dans des fausses croyances? Est-ce qu'ils se sont fait à croire qu'ils sont chrétiens ou pas? Et c'est même intéressant parce que cet après-midi, les pasteurs ont discuté ensemble, on se disait, il y a beaucoup de gens qui fréquentent notre église aujourd'hui qui auraient besoin de prendre des cours de fondement de vie chrétienne, de vraiment comprendre qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que le salut, qu'est-ce que la nouvelle naissance, qu'est-ce que la justification, qu'est-ce que la sanctification. C'est très, très important. Il y a des gens, vous allez peut-être rentrer ce soir chez vous troublés, mais pour une bonne chose. Mieux vaut être troublé quelques semaines et passer l'éternité dans la paix que d'être en paix et passer l'éternité troublé. Amen. Alléluia. Je termine. Oh là là, le temps passe vite. Dernière leçon qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu n'est ni légaliste ni laxiste. Dieu offre de changer nos vies. Hallelujah. Le légalisme met une pression sur les gens pour se changer. Le laxisme leur dit qu'ils n'ont pas besoin de se changer. Dieu vient dans un équilibre parfait et dit aux gens, « Crois-moi, je peux te changer. » Et ça, c'est le verset qu'on va lire ensemble en terminant. Et puis après, on va prier. Mais disons juste ce fameux verset qui a touché tellement Martin Luther. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Vous connaissez ce verset? Combien ont déjà lu ce verset? Gardez la main haute. C'est un verset puissant. Hein? Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Voyez-vous que il touche les deux églises. Il essaie de les ramener. Vous allez voir à travers l'Épître, ils essaient de ramener les églises ensemble. Il veut qu'elles soient ensemble. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Et le verset apparaît à l'écran, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu s'est révélée par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit. Celui qui est juste par la foi vivra. Amen. Tu peux t'approcher, Timothée, on va terminer. J'aimerais vous lire en terminant ce soir, des années plus tard, Martin Luther sera à table avec un ami. Et il y a un livre qui s'appelle Table Talk, qui est un grand classique, c'est discussion à table, échange à table. C'est des gens qui ont écrit ce que Martin Luther avait dit. Et dans cet échange, Martin Luther dira ceci à un ami. Il parle de ce texte que le juste vivra par la foi. Il dit ceci, « C'est alors que je commençais à comprendre qu'être juste devant Dieu consiste à vivre d'un don reçu de Dieu que l'on appelle la foi. » Et voici ce que le verset signifie. Vous pouvez imaginer l'homme qui vous devez imaginer ce soir Martin Luther, qui pendant des années, quand je lisais sa biographie, les 96 premières pages, j'entendais presque la voix de Dieu me dire, lis le contexte de ce qu'il a traversé. Son ascétisme, ses jeûnes. On dit, ceux qui l'ont côtoyé disaient, on pouvait presque voir ses os à travers sa peau, tellement il jeûnait pour essayer d'être en paix avec Dieu. Tellement il était tourmenté. Il parle d'angoisse continuelle. Il n'était pas bien dans son âme, Martin Luther. Et un jour, alléluia, Romains 1, 16, 17, compris, je n'y arriverai jamais à plaire à Dieu. Mais Jésus l'a fait pour moi. Et tout ce que j'ai besoin, c'est de croire. Amen. Regardez ce qu'il dit. J'ai commencé à comprendre qu'être juste devant Dieu consiste à vivre d'un don reçu de Dieu que l'on appelle la foi. Et voici ce que le verset signifie. La justice de Dieu se révèle par l'Évangile. Cette justification est passive par la miséricorde de Dieu, car la miséricorde de Dieu justifie celui qui croit selon ce qui est écrit. Celui qui par la foi est juste, celui-là vivra. À ce moment-là, j'ai eu cette forte impression d'être né de nouveau et qu'alors les portes du ciel m'étaient désormais toutes grandes ouvertes. Je vis les Écritures sous un tout autre angle. Je vis toute la Bible différemment. Je découvris aussi l'œuvre de la puissance de Dieu qui me fortifia intérieurement. Sa sagesse m'assagit. J'expérimentais sa force, son salut et sa glorieuse présence. J'exaltais alors les mots les plus doux envers Dieu pour qui j'eus tant de haine auparavant. C'est beau, hein? Quand on étudie sa vie, on découvre que Martin Luther avait une haine perpétuel contre Dieu. Parce qu'on lui avait dépeint un Dieu en colère, un Dieu qu'il faut constamment apaiser. Et on ne sait pas si on sera sauvé. Vous connaissez toute l'époque des indulgences et du purgatoire. Et Martin Luther a dit, mais quel est ce Dieu méchant? Et à travers Romains 1, 17 et 16, il a découvert, mais non, Dieu est bon. Dieu est amour. Et même Dieu a donné son Fils. La justice est réglée. Jésus est mort pour nos péchés. Et c'est une foi, j'aime bien cette expression, c'est une foi passive. Passive, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. On doit juste croire en Jésus-Christ. Amen. On va prier en terminant ce soir ensemble. Hallelujah. Peut-être y a-t-il une personne ici ce soir. Vous êtes là où Martin Luther a été. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en paix. Vous n'avez pas encore cette paix avec Dieu. Et vous essayez peut-être d'améliorer votre situation de toutes sortes de façons. Et ce soir, le Seigneur veut te tendre la main. Ce soir, Dieu veut te dire, je t'ai ouvert le ciel à travers Jésus. Hallelujah. Et tout ce qu'on a besoin de faire ce soir, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Peut-être y a-t-il, je sais qu'on est globalement entre chrétiens, mais peut-être y a-t-il une personne qui est ici ce soir. Vous n'avez pas encore accepté que Jésus est mort pour toi, que c'est réglé et que tu es invité à t'associer avec Jésus afin d'être adopté, aimé de Dieu et Dieu a une nouvelle vie pour toi. Dieu peut guérir ton passé, Dieu peut toucher ton présent et Dieu a un avenir pour toi. Mais tout ça, c'est seulement Jésus-Christ. Alors que tout le monde a la tête baissée, et j'aimerais même inviter les chrétiens à prier pour toi maintenant. Mais j'aimerais t'inviter à prendre une décision, à dire, je veux donner ma vie à Dieu. Je veux faire la paix avec Dieu. C'est peut-être une seule personne ce soir. Et j'aimerais juste t'inviter comme si tu mettais ta main dans la main de Dieu, juste à lever la main et dire, j'en ai assez de ces angoisses, j'en ai assez de... Je ne suis pas bien en dedans, je veux la paix. Et ce soir, je reconnais que je trouverai seulement la paix par Jésus. Je me rends, je m'abandonne, je ne fais plus d'efforts, je veux donner ma vie à Dieu. J'aimerais juste que tu lèves ta main maintenant. On va prier pour toi. Je ne vais pas t'exposer. Je ne vais pas te livrer en spectacle. Je voudrais juste prier pour toi. Hallelujah. Hallelujah. Merci. Hallelujah. Merci, merci. Hallelujah. Seigneur, tu aimes ces gens, Seigneur. Tu vois leurs mains, Seigneur. Et Seigneur, tu leur offres la paix avec toi par Jésus-Christ. Seigneur, nous aimons ta parole ce soir. Nous chérissons ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aussi terminer ce soir avec un cœur pour la saine et pure doctrine de l'Évangile, Seigneur. Seigneur, nous te demandons en tant qu'enfant de Dieu, garde-nous. Garde-nous de dévier, Seigneur. Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que nous croyons qui n'est pas de toi, Seigneur, viens sonder nos cœurs, Seigneur. Ne nous laisse pas aller vers un évangile laxiste, Seigneur. Ne nous laisse pas aller vers un évangile légaliste, Seigneur. Ne nous laisse pas fuir notre besoin d'être changé, Seigneur. Et Seigneur, ne nous laisse pas non plus essayer de nous changer par nous-mêmes, Seigneur. Tu nous offres de nous changer, Seigneur. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble en terminant? Et j'aimerais qu'on puisse juste demander, tendre nos mains vers le Seigneur, si vous le voulez bien ce soir. Soit sentez-vous vraiment les mains. J'aimerais qu'on puisse juste tendre nos mains vers le Seigneur Jésus ce soir. Hallelujah. Et commencez à lui dire, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie, Seigneur, qui est désagréable à Dieu, viens sonder mon cœur, Seigneur. S'il y a des croyances, s'il y a des pratiques, s'il y a quelque chose de mon ancienne culture, quelque chose de mon ancienne vie, Seigneur, quelque chose que j'ai ramené, des croyances, n'importe quoi, Seigneur, que j'ai attrapé sur Internet, que d'autres m'ont inculqué, qui attriste le Saint-Esprit, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Seigneur, fais de moi un homme comme Paul, Seigneur, qui aime la pure vérité, la saine doctrine, Seigneur. Je ne veux pas être laxiste, Seigneur. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui est en désaccord avec toi, Seigneur, s'il y a un péché caché, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. S'il y a quelque chose qui bloque ma relation, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Si je fais quelque chose qui attriste ton Saint-Esprit, pardonne-moi, Seigneur, afin que les écluses des cieux soient ouvertes, Seigneur. Montre-moi s'il y a quoi que ce soit dans ma vie qui attriste ton esprit. Hallelujah. Et Seigneur, je veux découvrir à travers cette épître et à travers ta parole que toi, tu changes nos vies, Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Prions encore un instant en terminant. Hallelujah. Plaçons nos cœurs devant le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit nous convaincre. Laissons le Saint-Esprit nous sonder ce soir. Hallelujah. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je vous laisse avec une perle. Je vous donne une perle en partant. Amen. Vous voulez une autre perle? On dit de Martin Luther que lorsqu'il a découvert que le juste vivra par la foi, vous devez comprendre, hein? Il a tellement vécu par ses efforts. Quand il a découvert le juste vivra par la foi, on dit qu'il est devenu un homme souriant. C'est beau, hein? Et Paul développera, voilà, je n'ai pas encore dit la perle, voici la perle. Le juste vivra par la foi. Et plus tard dans l'Épître, Paul démontrera que la justice s'obtient par la foi, mais aussi toute la vie chrétienne s'obtient par la foi. Toute, pas que le salut. Tout vient par la foi. Amen. Ça relâche les choses, hein? Ça fait, tu rentres chez toi, tu fais, ah, merci Seigneur. On peut être souriant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien.